SBS Radio.
Les grands titres de ce samedi 27 juillet. Au Canada, la police est toujours à la recherche des deux adolescents suspectés d'avoir tué un Australien et sa copine américaine. Aux États-Unis, le président Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait commencer à taxer fortement le vin français. Commençons ce journal au Canada où la police fait actuellement du porte-à-porte dans la ville de Gillam pour tenter de retrouver les deux adolescents suspectés du meurtre d'un Australien et sa copine américaine. Lucas Fowler et China Deese ont été assassinés près de la frontière entre le Canada et l'Alaska plus tôt ce mois-ci. Les deux suspects sont Cam McLeod et Briar Schmigelski. La porte-parole de la police canadienne, Julie Courchesne, a dit que les policiers tentaient de savoir où se seraient rendus les deux suspects.
Officers have conducted and continue to search high probability areas of interest in Gillam, in the Gillam area. Investigators continue to follow up on tips, review the physical and digital evidence collected, and share information with police forces across Canada. Over the next 72 hours, investigators will conduct door-to-door canvasses in the town of Gillam and Fox Lake Cree Nation in hopes of generating new tips and information.
La porte-parole de la police canadienne, Julie Courchesne. En Australie, le directeur de l'agence d'espionnage du pays met en garde contre une augmentation des tentatives d'ingérence étrangère. Duncan Lewis, directeur général de la Australian Security and Intelligence Organization, a dit que des forces étrangères tentaient de faire interférence au pays, allant de l'espionnage aux cyberattaques. En interview au journal The Weekend Australian, il a ajouté que cette influence étrangère se faisait aussi sentir en politique. Il a également dit que la menace terroriste avait cessé d'augmenter, mais qu'elle demeurait tout de même trop élevée. Le premier ministre Scott Morrison fera un discours ce week-end lors de la conférence du Parti libéral d'Australie occidentale. Il y aura plusieurs débats sur des questions controversées au cours du week-end, dont la suggestion d'allonger les termes parlementaires de 3 à 4 ans. Il y aura aussi des discussions sur la proposition d'enlever les références raciales dans la Constitution et sur celle de fusionner ABC et SBS. Il sera également question de sujets propres à l'État comme un possible moratoire de 4 ans sur les nouvelles lois sur l'euthanasie, ainsi que la proposition de bannir les manifestations près des cliniques d'avortement. La nouvelle leader des libéraux de l'État, Lisa Harvey, fera un discours demain. Retournons maintenant à l'international. Les États-Unis ont suggéré qu'ils imposeraient de nouvelles sanctions économiques contre la France. Le président Donald Trump a dit que son pays répondrait à la nouvelle taxe sur les services numériques de la France qui vise des compagnies américaines de technologie. Il a dit avoir parlé au président français Emmanuel Macron la semaine dernière, l'avertissant de ne pas mettre en place cette taxe.
They didn't do the right thing when they start taxing our companies. We tax our companies. They don't tax our companies. So France did that. I told him, I said, don't do it, because if you do it, I'm going to tax your wine, ring tariff, or tax, quota, whatever you want. So yeah, we're working on that right now.
Le président américain Donald Trump. Au Royaume-Uni, le nouveau premier ministre Boris Johnson a dit vouloir renégocier l'accord sur le Brexit. Ça ne plaît pas à plusieurs pays dont européens, dont la France et l'Irlande. Le ministre des Affaires étrangères de l'Irlande, Simon Coveney, a mis en garde Johnson. On l'écoute au micro de RFI.
Les déclarations du Premier ministre britannique ne vont pas vraiment aider les choses. Il semble avoir pris la décision délibérée de placer le Royaume-Uni sur la voie d'un choc frontal avec l'Union européenne et l'Irlande dans le cadre des négociations sur le Brexit. Et il est le seul à pouvoir dire pourquoi il fait cela. Mais le Premier ministre irlandais, comme Michel Barnier et les présidents Tusk et Juncker, ont été très clairs. Il n'est pas possible que l'approche du Premier ministre britannique serve de base à un accord. C'est donc inquiétant pour tout le monde. Ça veut dire que nos préparatifs et notre organisation en vue d'une sortie sans accord vont continuer à être une priorité essentielle du gouvernement, ce qui est le cas depuis un moment. Et nous allons continuer à concentrer beaucoup d'efforts et de ressources sur ce point, être aussi près que possible pour amortir l'impact sur cette île d'une sortie sans accord. C'est un défi considérable pour tous les partis politiques.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Irlande, Simon Coveney. À Paris, à 5 ans des Jeux olympiques, on commence déjà à penser aux retombées économiques. Myriam Berber de RFI nous dit à quoi la capitale française peut s'attendre.
5 à 11 milliards d'euros sont attendus pour l'économie française avec des milliers d'emplois à la clé. Le plus gros pourvoyeur est l'organisation des JO Paris 2024 qui devrait offrir près de 80 000 postes. Les autres secteurs concernés sont le tourisme avec 60 000 emplois et la construction avec 12 000. 40 chantiers sont prévus, le village des athlètes, la piscine olympique et de nombreux équipements sportifs pour un budget de 3 milliards et demi d'euros. Pour s'y préparer, le MEDEF a lancé la plateforme Entreprise 2024 destinée en priorité aux petites et moyennes entreprises pour les informer des appels d'offres des marchés publics et leur permettre de faire face à la concurrence des grandes entreprises. Pour mener le projet à bien, reste à trouver les financements. Après le retrait du groupe Total pour raisons écologiques, la BPCE, la Banque Populaire Caisse d'Épargne, est pour le moment le seul sponsor déclaré. Paris 2024 va devoir trouver d'autres partenaires. Pour boucler son budget, les sponsors doivent en effet apporter 1,2 milliard d'euros au budget des JO.
C'était Myriam Berber pour RFI. Et un mot de sport pour terminer le journal. Le Tour de France se tire bientôt à sa fin. Il y a un nouveau leader après une étape 19 qui s'est terminée plus tôt que prévu. C'est le Colombien Egan Bernal qui est maintenant en première position, laissant derrière lui le Français Julien Alaphilippe. Bernal a commencé la journée d'hier derrière Alaphilippe par 1 minute 30, mais a pu le rattraper durant une montée. L'étape a dû se terminer avant la fin prévue toutefois en raison de grêle et d'un glissement de terrain. L'Australien Richie Porte a dit qu'il s'agissait d'une bonne décision de la part du Tour.
It's one of the strangest things I've ever encountered in my professional career. But the end of the day, when you saw the hail on the road, it was probably the right decision.
Vous pouvez bien sûr suivre cette étape sur la chaîne télé de SBS. Après la pause, c'est notre rubrique « C'est arrivé ce jour-là », cette fois-ci sur l'armistice de la guerre de Corée. Mais juste avant, on jette un coup d'œil rapide à la météo au pays. À Perth aujourd'hui, un maximum de 20 degrés. Adélaïde, 15. Melbourne, 14. Hobart, 12. Canberra, 15. Wollongong, 19 degrés. Sydney et Newcastle, 20. Brisbane, 25. Cairns, 26. Et à Darwin, 31 degrés. On rappelle des grands titres de ce samedi 27 juillet. Au Canada, la police est toujours à la recherche des deux adolescents suspectés d'avoir tué un Australien et sa copine américaine. Aux États-Unis, le président Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait commencer à taxer plus fortement le vin français. Et la dernière étape du Tour de France commencera avec le Colombien Egan Bernal en pole position, avec derrière lui le Français Julien Alaphilippe.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.